Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Yebamot, page 93, Daf Tzadik Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Konam Shaniosa Lepicha. Une femme qui parle à son mari en lui disant Konam. Nous avons expliqué ce terme au début de ce pérec. En tout cas, c'est lui, celle qui fait le vœu d'interdire le produit de ses mains, c'est-à-dire ce qu'elle gagne, à la bouche de son mari. En tzarich le'afer, le mari n'a même pas besoin d'annuler ce vœu. Parce qu'en fait, elle est déjà engagée vis-à-vis de son mari, et en fait, tout ce qu'elle gagne revient à son mari. Donc elle n'a même pas le pouvoir d'interdire ce qu'elle gagne. Rabbi Akiva Omer Yafer, Rabbi Akiva dit, le mari devra annuler ce vœu, Shema Tadif Alavio Terminara Ulo, de peur qu'elle ne gagne plus que ce qui revient au mari. Dans la Gemara de Ktuva d'Afsamer Dalet Amud Bet, il est expliqué combien la femme s'est engagée à gagner pour son mari. Et donc, puisqu'elle risque de gagner plus que cela, et ce surplus sera interdit au mari, par conséquent, c'est pourquoi le mari devra annuler ce vœu. En tout cas, nous voyons ici que la vie de Rabbi Akiva est que la femme ou qu'une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas, puisque ce qu'elle gagnera par la suite n'existe pas encore. Finalement donc, nous ne pourrons pas interpréter la Mishnah que nous avons vue plus haut à propos de la personne qui donne des kiddushin à la candidate au hiboum dans l'intention que ces kiddushin prennent effet après la Khalitsa. La Mishnah nous avait dit que ces kiddushin ne pourront pas prendre effet. Selon la vie de Rabbi Akiva, ces kiddushin pourraient prendre effet, puisqu'il a une intention de le faire quand elle sera dans un état où ces kiddushin pourraient prendre effet. Finalement, donc, nous aurions une preuve de cette Mishnah que les kiddushin ne peuvent pas prendre effet pour la candidate au hiboum, comme ce que Rabbi Anaï a enseigné. La Gemara répond, Haït Marala, il a été dit sur cette Mishnah pour l'interpréter, Amar Avuna Bered Rav Yoshua, Beomeret Yikadshu Yadai Loseem. Il s'agit d'un cas d'une femme qui aurait dit que mes mains soient sanctifiées pour ceux qui les a créés, pour Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, donc, elle a fait le vœu d'interdire ses mains qui existent pour ce qu'elles produiront sur son mari. Et donc, les mains existent dans ce monde. Elle agit maintenant sur quelque chose qui existe. Finalement, donc, nous pourrons toujours dire que la Mishnah que nous avons vue plus haut va selon la vie de Rabbi Akiva, parce que nous n'avons aucune preuve ici que Rabbi Akiva nous dit qu'une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas, et nous pourrons dire que cette Mishnah qui parle de la candidate Yiboum parle selon la vie de Rabbi Akiva, qui dit que les Kiddushin n'ont pas d'effet pour n'importe quelle femme dont l'union est interdite par un commandement négatif. Nous avons fini ici le shiur de Yebamot Daf Tzadebet. Nous commençons le shiur de Yebamot Daf Tzadeh Gimel à la cinquième ligne du haut de la page. Nous avons vu jusqu'à présent une discussion entre Rabbi Akiva et le Chachamim. Si une femme voulait interdire à son mari ce qu'elle gagne, ce qu'elle produit, selon les Chachamim, le mari n'a pas besoin d'annuler ce vœu, puisque tout ce que la femme gagne revient au mari, donc elle n'a pas un pouvoir d'action sur ce qui ne lui appartient pas. Selon l'avis de Rabbi Akiva, le mari devra annuler ce vœu de peur qu'elle ne gagne plus que ce qui revient au mari. Ravuna Bered Rav Yoshua disait que nous ne pouvons pas prouver d'ici que Rabbi Akiva pense qu'une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas, puisqu'il s'agit ici d'une femme qui interdisait ses mains pour ce qu'elles produiront. Les mains existent, donc il s'agit en fait d'un pouvoir d'action sur quelque chose qui existe. Là-dessus, la Gemara dit, ou pliga de Rav Nachman Bar Yitzchak. Et ce que Ravuna Bered Rav Yoshua a interprété dans les paroles de Rabbi Akiva est en désaccord avec ce que Rav Nachman Bar Yitzchak a dit. Dehama Rav Nachman Bar Yitzchak, Ravuna ki Rav, Ravuna suit la même opinion que Rav son maître, Verav ki Rabbi Anaï, et Rav suit la même opinion que Rabbi Anaï son maître, Verabbi Anaï ki Rabbi Chia, et Rabbi Anaï suit la même opinion que Rabbi Chia son maître, Verabbi Chia ki Rabbi, et Rabbi Chia suit la même opinion que Rabbi son maître, Verabbi ki Rabbi Meir, et Rabbi suit la même opinion que Rabbi Meir son maître, Verabbi Meir ki Rabbi Eliezer ben Yaakov, et Rabbi Meir suit la même opinion que Rabbi Eliezer ben Yaakov son maître, Verabbi Eliezer ben Yaakov ki Rabbi Akiva, et Rabbi Eliezer ben Yaakov suit la même opinion que Rabbi Akiva son maître, de Amar, Adam, Makne, Davar, Shelobal, Olam, une personne a le pouvoir de donner ou de vendre ce qui n'existe pas encore. En d'autres termes, une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas. La Gemara maintenant va préciser. Ravuna, Maihi, d'où est-ce qu'on voit que Ravuna pense qu'une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas? La Gemara dit, de Itmar, parce qu'il a été dit une discussion. Hamocher, Perot, Dekel, Chavero, celui qui en hiver vend les fruits qui pousseront sur un palmier à son ami. Amar Ravuna, Ravuna dit là-dessus, tant que les fruits n'ont pas encore poussé, il peut revenir sur cette transaction. Par contre, Misheba Ula Olam, En Yachol Arzobo, une fois que les fruits ont poussé, il ne peut pas revenir sur cette transaction. Donc en fait, nous voyons que la vente qui a eu lieu en hiver quand les fruits n'existaient pas encore, prendra effet quand les fruits arriveront. Nous voyons donc de là qu'une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas. Verav Nachman Amar, Av Misheba Ula Olam, Yachol Arzobo. Même quand les fruits sont arrivés dans ce monde, c'est-à-dire une fois que les fruits ont commencé à pousser, il peut encore revenir sur cette transaction. Et cela parce qu'une personne n'a aucun pouvoir de faire une transaction ou aucun pouvoir d'agir sur quelque chose qui n'existe pas. Amar Rav Nachman, Modina, je suis d'accord, de ish amit ve'achil, l'homme afkinan miné. Si l'acheteur a pris des fruits et en a consommé, on ne lui fera pas sortir ses fruits. Et cela parce que une fois qu'il les a pris, il les a acquis, à la suite de cette transaction orale qui a eu lieu en hiver, allons disons qu'à partir de ce moment, cette transaction aura lieu. D'ailleurs, le Ritva précise dans le Chitam Koubet 7, dans Babam Tzia, Daf Samechvar Moudbet, que non seulement s'il les a pris sans permission, mais même si par exemple il a fait un acte d'acquisition sur tous les fruits de ce palmier, alors là, nous dirons que la vente a eu lieu. Rav. Maintenant, nous voyons que Rav aussi pense la même chose qu'une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas, parce que Rav Huna Amar Rav, Rav Huna dit au nom de Rav, Haomer Lachavero, celui qui dit à son ami, Sadezu Shani Lokeach, ce champ que j'ai l'intention d'acheter, Lekshekachena Knu Yalach Me'achshav, quand je l'achèterai, je te la vends, donc je te le donne, à partir de maintenant. En d'autres termes, ce qu'il a voulu dire, quand la première transaction aura lieu, quand j'achèterai ce champ, je te le donne, et cela rétroactivement, déjà à partir de maintenant. Rashi explique dans Baam Tsiadar Tetzain Amudbet que la raison pour laquelle il précise ici qu'il veut déjà que cette transaction prenne effet dès maintenant, c'est pour ne pas qu'il puisse se raviser dessus. En tout cas, Kana, là-dessus, Rav dit que l'acte d'acquisition est bon, puisqu'en fait, une personne a un pouvoir d'agir sur quelque chose qui n'existe pas. Rabbi Anai, ke Rabbi Chia. Nous voyons que Rabbi Anai pense comme son maître Rabbi Chia, qui dit qu'une personne a un pouvoir d'acquisition sur quelque chose qui n'existe pas. De Rabbi Anai, Havele Arisa. Rabbi Anai avait un métayer, de Hava Maitele Kanta de Pere Kolma Le Shabta, qui lui amenait un panier de fruits tous les vendredis. Hahuyoma Negale. Une fois, il est arrivé qu'un vendredi, il se faisait tard, veloata, et ce métayer ne venait pas lui amener les fruits. Le problème était qu'il devait prélever le maaser dessus, et puisqu'il se faisait tard, il avait peur qu'il ne pourrait pas prendre le maaser dessus, et que ses fruits ne pourraient pas être consommés le Shabbat. Chakal eser mipere, midebete. Alors il a prélevé le maaser à partir des fruits qui étaient dans sa maison, alaihu, sur ses fruits qui viendraient par la suite. Atal et kamed Rabbi Chia. Il est venu devant Rabbi Chia et il lui a raconté cette histoire. À Marley, Rabbi Chia lui a dit, Shapir Abdat, tu as bien fait. C'est-à-dire, en fait, ce maaser a pris effet, bien qu'en fait, il s'agit de quelque chose qui n'existe pas, puisque ces fruits ne t'appartenaient pas encore. Détania, parce qu'en fait, il a été enseigné dans une braïta. C'est le braïta interprète le pasouk de Dvarim Yuddalet, ce pasouk qui parle de la consommation du maaser sheni dans la ville de Yerushalayim. Pasouk dit, le man, tilmad l'ira et hachem elokecha kolayamim, afin que tu apprennes à craindre à Kadosh Baruch Hu, ton Dieu, tous les jours. La braïta interprète ce pasouk. En fait, le problème est, pourquoi est-ce que le pasouk ajoute kolayamim tous les jours? La braïta interprète, elu shabbatot ve yom tov. Il s'agit ici du shabbat et de yom tov. En d'autres termes, ce que ce pasouk veut dire, arrange-toi pour que ne soit pas entravée la joie du shabbat et du yom tov, et que tu puisses consommer les fruits à tout moment. La Gemara demande, le ma'il cheta, qu'est-ce que cette braïta a voulu nous enseigner? Il est malé à Sourmechal. Si tu veux dire que le pasouk est venu nous permettre de prélever le maaser pendant Shabbat pour pouvoir consommer les fruits et que ne soit pas entravé la joie du Shabbat et du Yom Tov parce qu'on ne pourrait pas consommer des fruits dont on n'a pas prélevé le maaser, là ce n'est pas possible parce que Itztarikran et Mishre Tiltoul de Rabbanan, est-ce qu'on a besoin, le pasouk a besoin de nous enseigner qu'on a le droit de faire un prélèvement de maaser qui n'est qu'interdit que Mide Rabbanan? En effet, dans la Gemara de Betsa, Daf Lamedvav Amudbet, il a été enseigné que ce n'est que Mide Rabbanan que le prélèvement du maaser est interdit le Shabbat.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Daf Tzadigim Lamoudbet. Et la lave, qui a Egavna, n'est-ce pas donc que le Passouk veut nous parler d'un cas similaire, c'est-à-dire qu'une personne aura le droit de prélever le maaser sur des fruits qui n'existent pas un vendredi après-midi, afin qu'il n'ait pas à se préoccuper le jour du Shabbat de prélever du maaser. Bien qu'il a le droit minatora de le prélever, mais c'est quand même une préoccupation qui entrave la joie de Shabbat. Bien que, en fait, on ait le droit de prélever du maaser sur des fruits qui n'existent pas, puisqu'une personne a un pouvoir d'action sur des choses qui n'existent pas, mais comme l'explique le Ritva, il vaut mieux le faire quand les fruits sont ici présents. Amarle, Arabiana, dit Rabbi Chia, Beha Hakriyun Bechalma, voici comment montrer en rêve Kaneratsut, un pasouk qui parle d'un roseau brisé. Maïla Vachik Amrele, n'est-ce pas que c'est ainsi qu'on a voulu me montrer en rêve? On a voulu me faire allusion au pasouk suivant dans Melachim Bet, chapitre 8. Il s'agit de Sanheriv envahissant Eretz Israël qui a envoyé une missive au roi Chizkiyahu, parce qu'il pensait que le roi Chizkiyahu s'appuyait sur l'aide de l'Égypte pour repousser l'envahisseur. Hine batarte lecha al mishenet hakanea ratzut hazeh. Voici que tu as fait confiance, que tu t'appuies sur cette canne de roseau brisé. En d'autres termes, donc, on a voulu me montrer dans ce rêve que tu n'as pas bien fait de prélever le maaser sur ces fruits qui ne t'appartenaient pas encore. Rabbi Chia lui a répondu, lo, ce n'est pas ainsi qu'on a voulu te montrer. C'est à ce pasouk qu'en fait on t'a fait allusion dans ce rêve. C'est un pasouk dans Yeshaya Membet qui parle du roi d'Ebné Israël, qui est donc le serviteur d'Akash Baruch Hu. Kane Ratsut lo Ishbo, il ne cassera pas le roseau brisé, ou Pishta Keha lo Yechabena, et la mèche de lin qui est prête à s'éteindre, il ne l'éteindra pas. En d'autres termes, il n'emploiera pas sa force pour briser les pauvres et ceux qui sont faibles. La suite du pasouk est Le Emet Yotzi Mishpat, il sortira un jugement véridique. En fait, donc, ce pasouk nous parle au contraire d'un tzaddik et qu'il sortira un bon jugement. En d'autres termes, ce qu'on a voulu montrer dans ce rêve, qu'en contraire, tu as bien fait de prélever le maaser, même que ces fruits ne t'appartenaient pas encore. Donc nous voyons que soit Rabbi Yanaï et soit Rabbi Chia pensent qu'une personne a un pouvoir d'agir sur quelque chose qui n'existe pas. Rabbi, maintenant nous voyons que Rabbi pense aussi qu'une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas. Netanya, ce qu'il a été enseigné dans une braïta, cette braïta interprète le pasouk dans Dvarim Chav Gimel qui dit « Lo tasgir eved el adonav » tu ne remettras pas un esclave qui s'est sauvé dans les mains de son maître. En fait le problème est, on ne comprend pas qu'on ne puisse pas remettre un esclave qui s'est sauvé dans les mains de son maître, puisque finalement il s'agit du bien de son maître. C'est pourquoi Rabbi Omer, Rabbi interprète le pasouk de la manière suivante, Belokeach Eved al Menat Shacharo, il s'agit Akatou Medaber. Le pasouk ici nous parle d'un cas d'une personne qui aurait acheté un esclave avec l'intention de l'affranchir. L'Agmara demande, Hechidami, de quel cas il s'agit, puisque finalement le fait qu'une personne ait eu cette intention ne donne pas de droit à l'esclave. La Gemara répond, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, de Katavle, il s'agit d'un cas où le maître aurait écrit à cet esclave, c'est-à-dire il aurait donné donc un acte, ce qu'on appelle un shtav, Lekshe Kachecha, quand je conclurai cette transaction qui consiste à t'acheter de ton maître précédent, Hareat Mecha Kanu Lechame Arshav, alors tu seras acquis à toi-même dès maintenant. En d'autres termes, il s'agit d'une personne qui donne un acte d'affranchissement à un esclave en lui disant de la manière suivante, dès que la transaction qui consiste à t'acheter sera conclue, alors je désire que cet acte d'affranchissement prenne effet rétroactivement dès maintenant. En tout cas, nous voyons ici que, selon Rabbi qui dit que le pasouk parle de ce cas, donc en fait, selon Rabbi, cet esclave est considéré déjà comme un esclave libre. Nous voyons donc ici aussi qu'une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas, puisque la situation dans laquelle cette personne, ce maître, pourrait affranchir cet esclave n'existait pas encore au moment où il lui a donné l'acte d'affranchissement. Rabbi Meir, nous voyons aussi que Rabbi Meir pense qu'une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas, d'Etnan, parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah de Masechet Kiddushin, d'Afsamer Gimel. Haomer Leisha, Gat Mekudeshet Li, une personne qui dirait à une femme, que tu sois fiancé à moi, me coup d'échette, l'achar chet gaïer, après que je sois converti, l'achar chet gaïri, ou bien que c'est kidushim prenne effet après que tu te convertisses, l'achar chet tacher, ou bien c'est un esclave qui parle à une femme en lui disant, je désire que ces kiddushim prennent effet après que je sois affranchi, l'achar chet ishtacheri, ou bien il parle à une esclave servante en lui disant, je désire que ces kiddushim prennent effet après que tu sois affranchi, l'achar chet amud baler, ou bien c'est un homme qui parle à une femme mariée en lui disant, je désire que ces kiddushim prennent effet après que ton mari meurt, l'achar chet amud achoter, ou bien c'est une personne qui parle à une femme qui est la sœur de sa femme. Il lui dit donc, je désire que ces kiddushim prennent effet après que ta sœur, qui est ma femme, meure. L'achar shiach lotzlech yevamer. Il s'agit ici de quelqu'un qui parle à un candidat au yiboum. On lui dit qu'il désire que ces kiddushim prennent effet après que ton yabam te fasse la chalitza. Dans tous ces cas, enam kudeshet, les kiddushim ne prendront pas effet puisque finalement la situation dans laquelle ces kiddushim pourraient prendre effet n'existe pas encore. Rabbi Meir Omer, me kudeshet, cette femme, ces kiddushim prendront effet. Parce que selon l'avis de Rabbi Meir, une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas. Rabbi Eliezer ben Yaakov, nous voyons aussi que Rabbi Eliezer ben Yaakov pense qu'une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas, de Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Yeter alken amar Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit plus que ce qu'on a dit précédemment. Afilu imamar perot arugazut lushin. Même si une personne dit que ces fruits cueillis qui proviennent de cette parcelle, Yehu Truma, qu'il soit désigné comme étant Truma al Perot Arugazu Mechubarim, sur ces fruits attachés dans cette parcelle, au Perot Arugazu Mechubarim, ou bien je désigne ces fruits attachés qui sont dans cette parcelle comme étant Truma al Perot Arugazu Tlushin, sur les fruits cueillis qui proviennent de cette parcelle, et cela, l'Ekshavi ou Shlishvi Talshu, et cela quand ces fruits atteindront le tiers de leur croissance et qu'ils soient cueillis, parce qu'avant cela, ce sont des fruits qui sont exemptés du prélèvement de la Touma, donc ils ne peuvent pas être désignés comme étant Touma, et ni on ne peut prélever sur la Touma. Vehebi ushlish venitleshu. Et puis ces fruits ont atteint le tiers de leur croissance et ils ont été cueillis. Dès qu'arrive ce moment-là, Dvarav Kaimim, ce qu'il a dit, ses paroles s'accompliront. En d'autres termes, nous voyons aussi ici que selon la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov, une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas. Rabbi Akiva, nous voyons aussi que Rabbi Akiva pense qu'une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas, d'Etnan, parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah de Nedarim d'Afpehe, Konam Shaniose Shaniosa Lepicha, une femme qui aurait dit à son mari, je veux interdire par le terme de Konam, ce terme a été expliqué au début de ce Perek, le produit de mes mains, c'est-à-dire ce que je gagnerai à ta bouche. Et notre tarikh l'a à faire, le mari n'aura pas besoin d'annuler ce vœu, et cela parce que tout ce qu'elle gagne revient au mari, elle n'a donc pas de pouvoir d'agir sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Rabbi Akiva Omer, Yafer, Rabbi Akiva dit, le mari devra annuler ce vœu, Shema Tadif Alav Yetermina Raoulo, de peur qu'elle ne gagne plus que ce qui revient au mari. En effet, dans la Gemara de Ktuva d'Afsamer Dalet Amudbet, il est expliqué combien une femme s'est engagée à gagner pour son mari. En tout cas, si elle gagne plus, ce surplus serait interdit au mari, c'est pourquoi il devra annuler ce vœu. Donc là, nous voyons que Rav Nachman Bar Yitzchak pense que l'avis de Rabbi Akiva est qu'une personne a un pouvoir d'action sur quelque chose qui n'existe pas, il n'interprète pas cette Mishnah, ce cas, comme parlant d'un cas où cette femme aurait interdit ses mains pour ce qu'ils produiront. Baoumine, Merav Shechet. On a posé la question suivante à Rav Shechet. Ed echad beivama mahu. Est-ce qu'on fera confiance à un témoin qu'il dit que le mari d'une femme est morte et par conséquent elle sera candidate au hiboum et qu'elle puisse faire le hiboum à la suite de ce témoignage? Est-ce que la raison pour laquelle on a fait confiance à un témoin c'est parce qu'en fait c'est une chose qui sera dévoilée par la suite et par conséquent même un témoin, on ne craint pas qu'un témoin ne mente pour ce témoignage? Nous dirons qu'ici, dans ce cas aussi, ce témoin ne ment pas, parce que c'est une chose qui se saura si le mari est vivant ou non. Odilma, ou bien nous dirons que Tamad est déjà la raison pour laquelle on a fait confiance à un témoin, Mishum Dehi Daika Munseba. Parce qu'en fait, une femme s'assure que son mari est mort avant de se marier. Beacha, par contre, dans notre cas, Kivan Dezim Nindera Hamale, des fois,
cette femme aime son beau-frère, elle a envie de se marier avec lui, l'odaika ou minseba, elle ne s'assurera pas que son mari est mort avant de se marier avec lui. C'est pourquoi donc on ne fera pas confiance à ce témoin, on ne laissera pas à cette femme de se marier avec son beau-frère. Amar lehu Rav Sheshet leur a dit, leur a répondu, Tanitoa, en fait nous avons enseigné cela clairement dans notre Mishnah. Amroula met bener vachagar met balech. On est venu dire à une femme, ton fils est mort et par la suite ton mari est mort. Par conséquent donc, ce mari n'a pas laissé d'enfant et elle est candidate au hiboum. Venit nyabma et elle a fait le hiboum. Vachakach amroula chilufat varim. Et par la suite on est venu lui dire, c'était en fait le contraire et ton fils est mort après ton mari, par conséquent, tu n'étais pas candidate au hiboum, tetsé, elle devra quitter son beau-frère, le yabam, ve'avlad rishon b'acharon mamzer, et le premier et le dernier enfant, c'est-à-dire l'enfant né avant qu'elle prenne connaissance qu'elle n'était pas candidate au hiboum, et celui qui est né après qu'elle ait pris connaissance du fait que son mari était mort en premier, ces deux enfants seront mamzer. Là-dessus, Rav Sheshet demandait, de quel cas il s'agit. Il est matré ou très. S'il s'agit d'un cas où au départ c'était deux témoins qui sont venus lui dire ton fils est mort avant ton mari, et après ce sont deux témoins qui sont venus par la suite contredire ce témoignage en disant que c'est le mari qui est mort avant le fils. Maïchazid de Samchatane, Smochane, pourquoi est-ce que tu fais confiance au dernier témoin? Tu n'as qu'à faire confiance au premier témoin. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'on force ce couple à divorcer s'ils sont persuadés que le mari est mort en dernier? On ne devrait pas les forcer à divorcer. The Od, Mamzer, la Mishnah nous prétend que ses enfants seront Mamzer. Ça fait que Mamzer, au maximum, nous avons un doute si ses enfants sont Mamzer ou non, puisque finalement, nous avons deux témoignages légitimes qui se contredisent, et on ne peut pas trancher ce doute. Donc finalement, comment est-ce que la Mishnah affirme que ses enfants seront Mamzer? Vechitema, si tu me répondras, Loda, que la Mishnah n'était pas pointilleuse dans son enseignement, mais en fait, quand la Mishnah nous a dit que ses enfants sont mamzer, en fait, la Mishnah voulait dire que, à propos de ses enfants, nous avons un doute s'ils sont mamzer ou non. Vehami de Katanesefa, voici que, puisque, à la suite de la Mishnah, dans le troisième cas de la Mishnah, il était enseigné, Harishon mamzer, Vacharon et non mamzer, le premier est mamzer, et le dernier n'est pas mamzer. Dans le cas où on a dit à une femme que son mari est mort, et elle s'est mariée, par la suite on est venu lui dire qu'en fait son mari n'était pas mort à l'époque mais maintenant il est mort, la Mishnah nous dit que le premier sera mamzer et le second ne sera pas mamzer, et cela parce qu'il est né après qu'il s'est avéré que le mari était mort. Cependant le Tosfot précise d'Af Tzadbet Amud Aleph dans notre Mishnah que ce dernier sera un mamzer midrabanan comme nous l'avons vu dans la première Mishnah de ce Perek. Par conséquent nous ne pourrons pas dire que quand la Mishnah nous dit que le premier est mamzer, il s'agit en fait d'une personne dont on sera en doute s'il est mamzer ou non. Parce que si c'était cela que la Mishnah voulait nous dire, la halakha qui s'appliquerait pour cette personne serait qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un mamzer, mais non pas aussi avec un Israël. Donc en fait, ce serait la même chose que s'il était un mamzer midrabanan, comme nous l'avons vu plus haut dans notre perek. Finalement, donc nous ne voyons pas pourquoi la Mishnah ferait une différence entre le premier et le second. Shma Mina, nous pouvons donc déduire de là, Davka Katane, que la Mishnah a été pointilleuse dans son enseignement, et quand la Mishnah parle du premier qui est Mamzer, il s'agit d'un véritable Mamzer. Voir le Tosfot Chad Mekamaye au début de notre Perek. Et la Lav Shma Mina, n'est-ce pas donc que nous pouvons déduire de là, Chad, que quand la Mishnah lui parle du cas où on est venu dire à une femme que son fils est mort, et puis après son mari est mort, par conséquent elle est candidate au Iboum, il s'agit d'un seul témoin. Et puis après, nous dirons que Vetama de Atu Betre Akreshua, et nous dirons que la raison pour laquelle elle devra quitter son second mari, ce n'est que parce qu'il y a deux témoins qui sont venus contredire le témoignage du premier témoin, Halavahi, Meheman. Par contre, si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de témoins qui sont venus contredire ce premier témoin, Meheman, on pourrait accepter le témoignage d'un témoin, même s'il s'agit de dire qu'une femme sera candidate au Iboum. Il y a une deuxième version à propos de cette question qui a été posée à Rav Sheshet. Là-dessus, sur la question si un témoin peut témoigner qu'une femme sera candidate au hiboum, il n'y a pas de raison de se poser de questions là-dessus. Parce que même le témoignage de cette femme elle-même sera accepté d'Etnan, parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah, plus loin d'Afkufid Dalet Amudbet. Haïcha Shamra Met Bali Tinase. Une femme qui aurait dit « Mon mari est mort », elle pourra se marier. Met Bali Tichabem. Si elle dit aussi mon mari est mort et il n'a pas laissé d'enfant, elle pourra même faire le yiboum. Donc nous voyons qu'on peut faire confiance à la femme même quand il s'agit de faire le yiboum. On pourra aussi accepter le témoignage d'un témoin. Kite Be'elar. Alors quand on se pose la question, les Mishre, Yebama et Alma, pour permettre une femme qui théoriquement devrait être candidate au yiboum, de la permettre de se marier avec quiconque. C'est-à-dire si ce témoin vient de dire par exemple à cette femme qui est candidate au yiboum que le Yabam est mort, par conséquent donc il n'y a plus personne pour faire le yiboum, elle pourra se marier avec quiconque. Ou bien dans le cas où ce témoin serait venu dire ton mari est mort, ou son mari, que son mari est mort, et puis par la suite que son fils est mort. Dans ce cas, comme l'explique le Rashba, puisque maintenant, selon le témoignage de ce témoin, il a été établi que maintenant son fils est mort, la question sera, est-ce qu'on pourra faire confiance à ce témoin quant au moment où le fils est mort. Cela comme la Gemara expliquera par la suite. Alors, Maitama de Edechad, pourquoi est-ce que, en général, nous acceptons le témoignage d'un témoin, Mishum de Milta David Aligluye, est-ce que c'est parce que c'est une chose qui se fera savoir par la suite, l'homme est chaker, et par conséquent, le témoin ne mentira pas, Hachanami l'homme est chaker, dans notre cas aussi, puisque c'est une chose qui peut se savoir, qui peut se vérifier, le témoin ne mentira pas et par conséquent pourra lui faire confiance, même dans ce cas. Odima ou bien Tama de Dechad Mishum de Ihidaika ou Minseba. La raison pour laquelle nous acceptons le témoignage des témoins, c'est parce qu'en fait, en plus, la femme, nous sommes persuadés que la femme s'assurera que son mari est mort avant de se marier. Veha Lodaika ou Minseba. Mais dans notre cas, il y a lieu de dire que peut-être qu'elle ne s'assurera pas entièrement de la véracité de dire de ce témoin. C'est-à-dire, elle s'assurera que son mari est mort avant de se marier. Par contre, pour savoir si elle est candidate au hiboum ou non, là, il est possible qu'elle ne procédera pas à autant de vérifications des Mishnah ou des Sanyalé, parce qu'il est possible qu'elle ait son Yabam et qu'elle n'a pas envie de se marier avec lui. C'est pourquoi, dès qu'elle entendra le témoignage d'un témoin, elle ira se marier avec un étranger, même si en fait, ce n'est pas sûr qu'elle n'est pas candidate au hiboum.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.